les informations.
On allait dire il est midi, mais il n'est pas midi, il est 10h. Bonjour Félix-Antoine.
Il est midi quelque part.
T'as pas fini ta journée plus vite. Hein?
Oui, c'est ça. Je me suis dit, il m'en reste moins que je pensais.
Il m'en reste moins que je pensais, c'est ça. Non, il est précisément 10h.
Ah, bon.
C'est l'heure de l'info. Et le CISO salue la formation du comité recrutement infirmier pour la vallée de la Gatineau.
Oui, à la fin du mois de septembre, la MRC Vallée de la Gatineau a annoncé la formation d'un comité de recrutement infirmier conjointement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. La préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, a bâti une équipe solide dans le but d'aller recruter des infirmières en France. Le directeur de service local pour la vallée de la Gatineau 6 de l'Outaouais, Benoît Valiquette, salue l'initiative.
Le beau travail qui est fait par ce sous-comité-là, parce que il aurait pu s'en tenir à dire, écoutez, on va essayer d'aller en Europe recruter des gens. Non, ils ont vraiment une vision globale des besoins. Et honnêtement, on ne peut qu'applaudir ça. Et je pense qu'on est une première étape de peut-être quelques étapes à venir et peut-être dans d'autres aussi professions. Pourquoi pas au niveau médical? Pourquoi pas au niveau autre professionnel de la santé?
M. Valiquette tient à préciser que c'est important d'aller chercher de nouvelles ressources, mais qu'il sera surtout important de bien les accueillir pour pouvoir les conserver dans la vallée de la Gatineau.
L'objectif, c'est pas juste d'aller en chercher, c'est de les garder. Développer ce sentiment d'appartenance-là, il faut vraiment avoir un accueil très personnalisé. Puis c'est pas simplement l'accueil, ça revient pas juste au personnel et aux gestionnaires du CISO, ça revient à la communauté aussi. Ces gens-là doivent rapidement dire... Je suis bien, je me sens chez moi. Et ça fait partie du grand défi.
Ce dernier poursuit en disant que le comité tient déjà en compte ce côté fort important du mandat qu'ils se sont donné. Le CIS est ravi de l'initiative de la vallée de la Gatineau. À titre de rappel, des délégués devraient partir en Europe au début de 2025 pour débuter le recrutement des infirmières européennes.
La vallée de la Gatineau se mobilise pour sauver l'industrie forestière.
Une centaine d'acteurs régionaux, dont des élus, des travailleurs forestiers et des gens d'affaires, étaient présents à la conférence de presse organisée par la MRC Vallée de la Gatineau en réponse à la fermeture indéterminée de la série de produits forestiers résolus à Maniwaki. Ça se tenait hier, cet événement. La préfète Lamarche était accompagnée par le président de la Chambre de commerce de Maniwaki et Vallée de la Gatineau, Mike McConry, et par le directeur général de la Société de sylvicole de la Haute-Gatineau, Patrick Finet. D'entrée de jeu, la préfète Lamarche a déploré l'absence du député de Gatineau, Robert Bussière.
J'ai pas l'habitude, moi, là, je respecte tous mes collègues, je respecte la démocratie parce que c'est un député, il a été élu. Mais là, ça commence à être assez. Là. On a eu la SOPFEU, on a eu la CEPAC, on a Service Québec, la 105, puis là, c'est la foresterie. À un moment donné, il va falloir que la population se fâche, pas juste les politiciens.
Jointe par la radio CAGA-FM, l'attachée politique de M. Bussière, Pascal Labelle a confirmé que la volonté en fait du député de Gatineau à soutenir la région dans cette crise. Elle a justifié l'absence de M. Bussière par le fait qu'il siégeait à l'Assemblée nationale et en raison du court délai entre l'invitation à cette mobilisation et le moment de la conférence de presse. Le directeur général de la Société sylvicole de la Haute-Gatineau, Patrick Finet, a catégoriquement fermé la porte au reclassement des employés qui n'est pas une solution, selon lui.
Pour moi, je travaille en forêt puis je veux rester en forêt. C'est excessivement important. Pour moi, c'est une passion. Puis non, je veux pas me faire reclasser puis je veux pas aller dans un autre domaine que la forêt. Je suis propriétaire forestier. Je travaille en forêt depuis 28 ans puis je veux y rester. Les gens sont derrière moi. Ils croient en moi. Puis moi, je les représente fièrement. Puis il faut arriver à des solutions à très, très, très court.
Le président de la Chambre de commerce de Maniwaki, Vallée de la Gatineau, estime que les effets de l'arrêt indéterminé des activités de la série Produits forestiers résolus de Maniwaki se feront sentir bien au-delà des frontières de l'industrie forestière et que la région n'a toujours pas pris la pleine mesure de l'impact de cette décision.
Le 20 décembre, que ce monde-là soit tout parti chez eux et que le petit gars et la petite fille, qu'il n'y a pas le cadeau à Noël qu'il a aimé avoir, c'est là que ça va être triste. Puis après que les autres vont avoir perdu leurs emplois, mais là, après les fêtes, ce qui va arriver, c'est qu'on n'a pas d'argent pour aller au restaurant, on n'a pas d'argent pour aller au théâtre, on n'a pas d'argent pour aller magasiner après les fêtes parce qu'on n'a plus d'argent. Il faut qu'on économise, mettons, pour venir à bout de passer au travail. Et pour la région, c'est énorme. Là.
D'ailleurs, Mike McConry s'inquiète des conséquences que l'arrêt des activités chez Produits forestiers résolus aura sur les opérations de l'usine de Louisiana Pacific à Bois-Franc.
Les usines, ils vivent un et l'autre. Quand ils sont coupés en forêt, il faut qu'ils coupent du bois. Pour leur propre usine, mais qu'est-ce qui est là, il faut que tu sois capable de le vendre à l'autre usine. Donc, mettons, le producteur principal qui est résolu, qui coupe beaucoup de bois, il n'est pas capable de le fournir en bois, mais qu'est-ce qui va arriver à l'autre usine? Ils vont commencer à former des corps de travail, ils vont commencer à former les portes. Tu sais, l'usine qui n'est pas rentable, elle ne reste pas ouverte.
Une cellule de crise sera mise sur pied rapidement afin de proposer des solutions à court et à long terme afin d'atténuer les effets de cet arrêt des activités chez Produits forestiers résolus. Les priorités de cette cellule seront de trouver des solutions durables, de prévenir le reclassement des travailleurs et d'accélérer la refonte du régime forestier. On écoute Chantal Lamarche.
Demain matin, on va s'asseoir avec la cellule de crise. C'est là qu'on va énumérer les actions à court terme et à long terme. On va s'adresser à François Legault de nouveau. C'est qu'on fasse des mobilisations plus grosses, qu'on se déplace à Québec, on va le faire. Comme M. Fenné a dit tantôt, il y a des actions à court terme qui peuvent se faire. Le coût des opérations, la fibre avec le forestier en chef, il y a plein de choses qui peuvent se faire. C'est une sourde oreille complètement. Ça fait une quinzaine d'années que je suis en politique, j'ai jamais vu ça. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire à long terme par rapport pour diversifier la foresterie.
Maintenant, parlons du Cercle des fermières de Maniwaki qui relocalise ses activités.
C'est exact. Il occupait, en fait, l'organisation occupait un local dans l'ancien hôtel de ville de Maniwaki qui a été contraint donc de trouver un nouvel emplacement pour tenir ses activités après la vente de l'édifice par la ville. Après de longues recherches, l'organisme a déniché un nouveau local situé au troisième étage du presbytère de l'église L'Assomption de Maniwaki. Cependant, pour faciliter l'accessibilité des membres, l'organisation a pris la décision d'investir environ 40 000 $ dans l'achat d'un monte-escalier. La présidente du Cercle des fermières de Maniwaki, Pauline Étier, en dit davantage.
Donc, ça va très bien, ils peuvent monter sans problème, mais pour les autres qui ont des handicaps un peu au niveau des jambes, des genoux, ça devient un frein pour venir nous voir. Fait que là, à ce moment-là, on a pensé de prendre un monte-escalier. Si 5 semaines à peu près, on devrait avoir notre monte-escalier.
Un nouveau métier à tisser à 8 cadres a également été acheté afin de permettre d'améliorer la qualité visuelle des tissages réalisés par les membres. Un espace a également été aménagé dans ce nouveau local afin de permettre d'offrir des formations en ligne au moyen d'un téléviseur et d'un ordinateur portable. On vous rappelle que le Cercle des fermières de Maniwaki est le seul à être toujours en activité à travers le territoire. Il est ouvert à l'ensemble des femmes de la région. Pauline Étier rappelle la mission de l'organisation.
C'est la préservation du patrimoine artisanal et culturel. Aussi, éviter l'isolation des personnes aînées. On a des jeunes à partir de 30 ans, présentement jusqu'à 86 ans. Là.
Seuls intéressés à joindre l'organisation peuvent se présenter au local les mercredis dès 10 heures afin de prendre part aux activités.
Maintenant, Félix-Antoine, pour midi. Là, on parle de midi.
Oui. Là, on est rendu là. Encore, faut-il attendre, mais on vous en donne des petites nouvelles. Il y a le Centre de valorisation des aliments de la vallée de la Gatineau du côté de Gracefield qui a fait une demande à la ville pour ne pas payer ses taxes foncières. En fait, les organismes à but non lucratif, habituellement, ne paient pas de taxes foncières. C'est des OBNL. Puis je sais que la ville de Maniwaki, à toutes les années, reçoivent des demandes. Les refusent la demande, mais c'est de façon symbolique. Ce qu'on dit à la ville de Maniwaki, c'est qu'on comprend que, tu sais, on sait qu'ils vont finir par pas les payer quand même parce que la loi leur donne, tu sais, c'est prévu comme ça, mais nous, on s'oppose de façon symbolique pour que Québec comprenne que ben, ça nous crée un manque à gagner. Mm-hmm. Donc, on s'oppose pour faire passer un message. Ça, c'est la vision de la ville de Maniwaki. Du côté de Gracefield, on s'oppose vraiment parce qu'on dit que ce n'est pas un OBNL. Oui, c'est un OBNL, mais on dit que c'est un commerce aussi. Ils vendent des produits, ils font compétition à d'autres commerces sur le territoire. Il faudrait qu'ils payent des taxes, il faudrait qu'il y ait des règles similaires pour que ça ne soit pas plus favorable pour un que pour l'autre. Mm-hmm. Tu sais, il y a un commerce privé, puis l'OBNL, par exemple, ici, le centre de valorisation, un, tu sais, qui vendent les mêmes produits, qui ont un chiffre d'affaires similaire, bien, il y en a un qui doit payer des taxes, l'autre non. Donc, c'est la vision de la ville de Gracefield. J'ai pour mon dire que l'OBNL va quand même obtenir gain de cause. Là, habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la ville est prête à aller plus loin encore pour ne pas permettre cette façon de faire-là, qui est, selon ma compréhension, comprise dans la loi. Là. Mais la ville dit, écoute, c'est un commerce. Là, mm-hmm. Mais en même temps, il y a la vocation. Il aide des gens, ils nourrissent des gens gratuitement, ils viennent en aide. Donc, c'est ça. En même temps, si ça fait en sorte qu'il y a des commerces qui ferment leurs portes parce qu'ils ne tirent plus leur épingle du jeu, ben c'est pas bon pour l'économie. Tu sais, on comprend un petit peu là, où est-ce qu'ils sont là-dedans. En même temps, ben en tout cas, bref, on va vous en reparler plus en détail à midi. Il y a un juge administratif qui se penche là-dessus. Fait que c'est pas fini encore. On devrait avoir le final de tout ça dans à peu près 4 semaines à 1 mois. Là, à peu près. On va vous suivre ça pour vous.
Merci, Félix-Antoine.
C'est un plaisir.